Ferrand raconte sur Radio Classique.
C'est à 8h15 le matin du 6 août 1945 que l'horreur s'est répandue sur Hiroshima. La bombe Little Boy, curieux surnom qu'on a donné à cette bombe lâchée d'un bombardier B-29 américain, le trop célèbre Enola Gay, est une bombe atomique à l'uranium-235 et vous avez à l'esprit le champignon créé par son explosion. Personne, ni vous ni moi, ne peut en revanche se faire une idée de la détonation. Invraisemblable déflagration, ni de l'éclair sans précédent de cet engin qui devait pratiquement tout détruire dans un rayon de 2 kilomètres et souffler une grande partie des bâtiments, les jardins, la vie même des gens dans un rayon de près de 10 kilomètres. La cible de cette bombe du 6 août 1945, c'est évidemment la ville de Hiroshima sur l'île de Honshu. On est dans l'ouest de l'archipel, dans le delta du fleuve Ota, une ville de près de 300 000 habitants à l'époque, entre 280 000 et 300 000, ce qui fait d'elle la 7e la plus peuplée du Japon. Et elle est connue, cette ville d'Hiroshima, pour deux choses à l'époque. Son château fortifié, qui datait de 1589. Imaginez ce château avec ses toits superposés, comme on sait les construire au Japon et qui fascine encore aujourd'hui les touristes du monde entier. Château entouré d'ailleurs de douves, avec de somptueux jardins. Et puis des usines d'armement. Ça n'est peut-être pas un hasard si la bombe est tombée sur Hiroshima. Les usines en question avaient jusqu'alors été épargnées par les bombardements américains. La troisième bonne raison de connaître Hiroshima, évidemment, depuis 80 ans, elle a éclipsé toutes les autres. Peut-être en fait pas tout à fait toutes, puisqu'à Hiroshima se situent les ateliers de fabrication d'un des plus prestigieux constructeurs automobiles de la planète. Je veux parler de Mazda, mais nous allons y revenir. Je voudrais, avant cela, vous lire le témoignage poignant d'un habitant d'Hiroshima en août 1945. Il s'appelle Keiji Nakazawa et à l'été 95, c'était pour le 50e anniversaire de la bombe, il avait témoigné dans Historia. Et voilà ce que nous disait Keiji Nakazawa. Soudain, comme la foudre, un éclair gigantesque envahit le ciel, une boule géante, fulgurante, rouge, blanche, incandescente, absolue, je perds connaissance. Le bombardier maudit vient de lâcher furtivement sa bombe atomique, j'ouvre les yeux, je ne sais pas depuis combien de temps je suis là. Le ciel est noir, j'essaie de soulever ma tête, mais je ressens une douleur à la joue droite. Je passe ma main sur mon visage et en retire un clou qui m'a déchiré la chair. Je bouge un peu, cherchant à me lever, mais mon corps est coincé sous des pierres, des briques, des branches d'arbres et des morceaux de bois. Je vois le mur de l'école penché dangereusement au-dessus de moi. Je rassemble toute mon énergie et réussis à m'extraire de mon lit de décombres. Instinctivement, je cherche mon cartable et mon chapeau anti-éclat. Toujours tâtonnant, je regarde vers la ligne de tramway toute proche, mon Dieu. J'aperçois la mère de mon copain renversée sur le dos, son corps totalement carbonisé. Ses cheveux, en brûlant, ont frisé. Des lambeaux de vêtements entortillés autour de son cou et de sa taille flottent comme des algues dans l'eau. Au milieu de son visage calciné, ses yeux blancs semblent me regarder avec effroi, colère. Sans rien comprendre à ce qui vient de se passer, je marche jusqu'au milieu du boulevard. Je ne retrouve plus rien du paysage familier. Le bouleversement dépasse mon imagination. Hébété, je contemple une espèce de toile d'araignée enchevêtrement de fils électriques et de poteaux jetés au sol, massacrés. Les gros fils du téléphone entourent un pylône, pareil à des serpents grillés. Toutes les maisons, écrasées comme par un coup de fouet monstrueux, véritables dragons venus du ciel, ondulent comme des vagues au bord du boulevard. Le ciel s'est rempli d'une fumée grise, on dirait des gouttes d'encre de Chine se diluant à la surface de l'eau. De gros oiseaux tournoient en désordre. Je réalise vite que ce sont des morceaux de bois et de tôle, et qu'ils retombent. Parmi les maisons détruites, des flammes rouges vives jaillissent. Ici, là, l'incendie se répand, file d'une poutre à l'autre avec une allure élastique et implacable de reptile à 100 têtes.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
En japonais, Hiroshima, ça veut dire « grande île » du fait de la conformation même des lieux, hein, qui se trouve au milieu du delta, ce qui fait que lorsque vous descendez vers le fleuve, vous avez un peu l'impression effectivement qu'il s'agit d'une île. En tout cas, c'est l'impression que ça devait donner au XIVe ou XVe siècle, à l'époque où on lui a donné son nom. La ville s'est beaucoup développée au XVIIe siècle, avec des manufactures qui, deux siècles plus tard, sont carrément devenues des usines pour faire d'Hiroshima un des grands centres industriels de l'archipel. Et c'est le port d'abord, évidemment, c'est le réseau ferroviaire ensuite qui ont favorisé cette grande prospérité en permettant l'acheminement de matières premières, mais surtout en permettant l'écoulement de tous les produits qui avaient été fabriqués. N'oublions pas aussi une production locale très dynamique, le coton, le bambou, exporté dans tout le pays et même à l'étranger, puis toutes sortes de légumes qui sont très réputés à l'époque. Il y a des fruits de mer aussi, puisqu'on est au bord de la mer. Bon. Vous commencez à vous faire une idée de ce qu'a pu être Hiroshima au début du XXe siècle, une ville donc à la fois industrielle et industrieuse, une ville portuaire à la vie active, iodée si je puis dire, et c'est là, en 1920, qu'est fondée une société qui va fabriquer des objets en liège. On a tout de suite à l'idée la fabrication de bouchons de liège. On ne faisait pas que des bouchons dans cette usine, toutes sortes de parements, toutes sortes de petits objets de liège, également des composants industriels, car on ignore souvent que le liège entre pour une part non négligeable dans la fabrication, notamment des refroidisseurs. Bref, on fabriquait des objets de liège dans cette usine qui s'appelait Toyo Kogyo. Cette fabrique aurait pu rester là longtemps, dans son secteur, le liège, qui était un secteur somme toute assez florissant, si l'un de ses dirigeants, et il va devenir le président de la firme, il s'appelle Jujiro Matsuda, eh bien c'est Matsuda qui va avoir l'idée, alors là on est tout à fait dans l'état d'esprit de ce que peuvent faire les Japonais lorsqu'ils s'étendent horizontalement, si je puis dire, mais aussi verticalement, lorsqu'ils développent le champ d'activité des entreprises, ce Jujiro Matsuda a l'idée de fabriquer des petits véhicules nécessaires au déplacement, à la livraison des produits maison. Ça va être le début de la fabrication de véhicules trois roues, des utilitaires, si vous voulez, des triporteurs, qui, dès 1931, n'en seront pas moins commercialisés sous le nom de Mazda Go. Alors, on pourrait à l'infini développer l'origine de ce nom Mazda Go. Mazda, c'est une divinité bien connue en Orient, n'est-ce pas ? C'est peut-être tout simplement pour Matsuda une façon de se rapprocher de son propre nom de famille, Matsuda. Bref, les Mazda Go vont se vendre si bien que dans les années d'expansion et d'expansionnisme japonais, dans ces années 30 et au début des années 40, ça devient le produit phare de l'usine. Arrive le cataclysme du 6 août 45 qui va foudroyer Hiroshima et qui va, ça c'est le miracle de cette histoire, qui va épargner en partie l'usine où se fabriquent les fameux petits triporteurs protégés par le mont Ijiyama qui a fait en quelque sorte écran entre l'usine et l'explosion. La suite japonaise de Gustav Holst, l'orchestre de Luster, était sous la direction de Johann Faletta.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Très souvent, on a décrit cette terrible explosion d'Hiroshima ce 6 août 1945. Oh, c'est une des grandes dates de l'histoire de l'humanité, incontestablement. Ce qu'on a moins décrit, c'est l'extraordinaire atmosphère qui s'est développée, non seulement autour du point d'impact et à Hiroshima même, et d'une façon plus générale dans l'île d'Honshu, mais peut-être dans l'ensemble de l'archipel, après la double explosion, car il ne faut jamais oublier qu'après Hiroshima, il y a eu Nagasaki, après la double explosion de 1945. Il y a un grand auteur américain, il s'appelle John Hersey, qui est très important lorsqu'on parle d'Hiroshima. Et il nous décrit, lui, cette atmosphère de la ville un an après l'événement. Je le cite, « une curieuse sorte d'esprit communautaire exalté, comparable à celui des Londoniens après le Blitz ». Une fierté tirée de la manière dont eux et leurs compagnons de route survivants avaient résisté à une si terrible épreuve s'est développée dans la ville, nous dit John Hersey. Et l'on comprend de quoi il s'agit. Il s'agit d'un climat qui est fait à la fois de résilience, je crois que là le mot n'est pas trop fort, de solidarité et d'entraide, mais aussi de volonté de s'en sortir, de volonté de relancer les choses. C'est le sursaut, vous savez, il y a eu le choc qui a complètement abattu la population, et sur ce choc est venu se greffer l'envie d'aller plus loin, de développer des activités. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va voir se mobiliser le quartier qui se trouve au sud-est de la ville, qui donc a été relativement protégé de l'explosion par le mont Ijiyama. Et ce quartier s'appelle Mukainada. On parlera plus tard d'un esprit Mukainada pour évoquer justement cette volonté de ne pas se laisser abattre. L'usine qui avait fabriqué pendant longtemps des bouchons de liège et qui était devenue une usine de triporteurs va se mettre à travailler, à mettre les bouchées doubles, à développer le plus possible les chaînes de montage, d'assemblage pour produire des triporteurs qui vont ensuite servir immédiatement sur place à Hiroshima, mais ailleurs dans toutes les villes bombardées et martyrisées du Japon, à essayer de reconstruire tout simplement. Il fallait d'une certaine manière que chacun prenne en main son destin, que chacun assume ses responsabilités, et les employés ont commencé à distribuer. Alors, dans un premier temps, quand il y avait encore des blessés, eh bien on a distribué des fournitures médicales, et puis on a mis en place des centres de consultation pour aider les familles. Il faut bien imaginer qu'une grande partie des personnes qui se trouvaient là n'avaient même plus de toit où s'abriter. Et puis, on a dégagé la partie des usines qui avait été abîmée par l'explosion pour y installer des sans-abri, pour créer des antennes d'ambulances, d'hôpitaux d'urgence. Et puis, petit à petit, eh bien, je vous le dis, on s'est remis à travailler et à produire. Et 4 mois seulement, c'est-à-dire avant la fin de l'année 1945, je dis bien avant que 1945 ne soit arrivé à son terme, la production des triporteurs était repartie. Et pour la population d'Hiroshima, ça a été un souffle considérable. Et on peut dire que d'une certaine manière, Mazda est devenu un exemple de l'attitude qu'il fallait adopter. C'était un peu le phénix qui renaissait de ses cendres. Et on a vu se mêler en quelque sorte les destin d'une ville martyre et d'une entreprise qui avait su survivre et se développer. C'est l'un des dirigeants de la firme, il s'appelle Masahiro Moro. C'est lui qui dit que plus de la moitié des employés étaient originaires de cette région d'Hiroshima et que donc l'usine a eu à cœur d'être partie prenante du travail de la communauté. On imagine que bien plus tard, 80 ans après la catastrophe, Hiroshima s'est totalement reconstruite. Aujourd'hui, c'est devenu une gigantesque ville, c'est la plus grande ville tout simplement de la région de Shukoku, dans l'ouest de cette île d'Honshu, avec plus de 2 millions d'habitants, avec une activité économique florissante, avec une vie culturelle extrêmement développée. N'oublions pas qu'une grande partie des activités qui sont développées le sont en souvenir même de l'explosion d'Hiroshima. Et d'ailleurs, les touristes qui vont, je sais de quoi je vous parle, ça a été mon cas, quand vous visitez cette région et quand vous allez à Nagasaki ou à Hiroshima, évidemment, vous pensez d'abord à la bombe. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, ce ne sont pas les dégâts causés par la bombe, c'est l'élan de solidarité sans précédent que l'après-bombe a créé.
Thank you.
merveilleux chœur à bouche fermée du Madame Butterfly de Puccini. Le chœur et l'orchestre de l'Académie nationale Sainte-Cécile de Rome étaient sous la direction d'Antonio Pappano.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Les fondateurs, je vous avais parlé de ce Giugiaro Masuda qui avait joué un rôle absolument essentiel dans la transformation d'une usine de fabrication de bouchons de liège en une usine de triporteurs, hein, de véhicules utilitaires. Eh bien, dites-vous qu'après la guerre, c'est son fils qui va devoir assumer un véritable bras de fer avec le gouvernement japonais qui tenait à ce que cette firme tellement exemplaire d'Hiroshima, à ce que Mazda intègre une organisation plus vaste et d'une certaine manière plus puissante. On était tout à fait dans le grand programme industriel conquérant du Japon des années 50 et 60. Seulement, l'héritier de Mazda va refuser. Il va tenir bon. Il fait partie de ces gens qui savent dire non. De même que son père avait refusé l'abattement après le bombardement, eh bien lui va refuser de dissoudre l'identité de la maison. Il va défendre l'esprit de Mukaidana dans la structure même de l'entreprise. Et c'est en 1960 précisément que Mazda a fait de sa mue industrielle un véritable exemple, en passant des triporteurs, les fameux Mazda Go, là, hein, qui avaient tellement rendu service dans la période de reconstruction qui avait immédiatement succédé à la guerre, en passant de ces triporteurs aux petites automobiles. Le premier modèle sorti de la chaîne en mai 1960, qui est baptisé Carole de son nom industriel Mazda R360 Coupé, ce sera un très grand succès, pour pas dire une icône populaire au Japon. Vous avez sur les photos des années 60 et 70, toutes ces petites voitures, tous ces petits coupés Mazda qui montrent que les villes de l'archipel se sont littéralement emplies de ces petits coupés automatiques, la plupart du temps de couleur blanche. Une très grande attention a été portée d'entrée de jeu à la carrosserie de ce petit véhicule très profilé, mais aussi à l'esprit pratique, ergonomique de son habitacle. Et ça, d'une certaine façon, ça va devenir, j'allais dire, la marque de fabrique de Mazda. C'est en 1967 que sera lancé le modèle iconique de la marque, la Cosmo, présentée dès 1963 par Tsuneji Matsuda à la foire automobile de Tokyo, sous un crépitement de flash qui, à l'époque, a été regardé comme d'excellent augure. Ce modèle, dont les caractéristiques techniques mériteraient d'être développées, mais pour tout vous dire, je ne suis pas persuadé d'être l'expert le mieux à même de le faire. En tout cas, la Cosmo va devenir une sorte de légende incarnant cet esprit Mazda et dont la signature dit à la fois l'élégance et l'efficacité, l'impression de voler plus que de conduire.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
S'il fallait définir l'esprit Mukaidana, le nom de ce quartier du sud-est d'Hiroshima, vous savez, où s'est manifestée la solidarité de toute cette population. Si donc je devais résumer cet esprit à quelques notions clés, j'évoquerai les qualités suivantes. C'est toujours intéressant de tirer quelques leçons de ce genre d'aventure humaine, en l'occurrence d'aventure industrielle. D'abord la singularité. Cette confiance dans des façons de procéder qui vous sont propres, qui n'appartiennent qu'à vous. C'est le principe de suivre son chemin, vous savez, qui, évidemment, dans le contexte japonais, ne vous surprendra pas beaucoup. Ensuite, après la singularité, la constance, pour ne pas employer le terme galvaudé de résilience, ça veut un peu tout et rien dire, résilience. Là, je veux parler de la capacité à garder un cap, à ne pas se laisser décourager, jamais ni détourner de son but. Enfin, et c'est peut-être le plus important, l'esprit Mukaidana conduit à tendre vers une espèce de forme d'excellence, à rechercher l'exceptionnel, à accepter l'idée que c'est en se dépassant toujours qu'on reste en même temps fidèle à soi-même. Bien avant la guerre, à l'époque de la société phare du quartier de Mukaidana, quand on façonnait les différents produits du liège, déjà on cultivait dans la maison ce triple esprit d'une originalité singulière, d'une fermeté constante et d'un auto-dépassement. Mais il est plus que probable que tout cela n'a pu se développer que dans l'épreuve du bombardement et de la reconstruction, que ça s'est renforcé sous l'effet de cette contrainte hors du commun. Je trouve d'ailleurs assez instructif qu'il ait fallu des circonstances aussi terribles pour révéler ce qui n'était encore à l'époque sous-jacent. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, Mazda a voulu rester indépendante de la concentration industrielle qui était recommandée par le gouvernement japonais juste après la guerre. Et c'est ainsi, l'entreprise d'Ematsuda s'est mise en situation de développer ses propres inventions, de procéder, si vous voulez, à ses innovations à elle. Je pense par exemple au moteur rotatif, qui n'était plus le moteur alternatif qu'on trouve sur la plupart des modèles. Hein. Moteur à piston triangulaire qu'on retrouvera d'ailleurs sur toute la série des modèles de voitures RX et qui devait donner à Mazda la victoire aux 24 heures du Mans en 1991. Tout se passe comme si cette maison avait compris que, pour nourrir sa volonté d'indépendance, il allait falloir qu'elle fasse preuve d'innovation, qu'elle dispose de quelque chose de différent. Il fallait en quelque sorte proposer ses propres inventions. Ce qui était vrai il y a 30 ou 40 ans l'est encore plus de nos jours, du fait notamment de la concurrence effrénée sur le secteur de la Chine voisine, par exemple. Pour ce qui est des types de carburateurs, on a vu l'entreprise aller naturellement vers une approche multi-solution. Je veux dire que sans tourner le dos à l'électrique, bien sûr, Mazda n'a pas totalement rompu, ni avec l'essence, ni même avec le gasoil. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus fort. J'ai parlé jusqu'ici des moteurs et plus généralement de la technologie, mais la singularité de Mazda, cette entreprise a su la développer par ailleurs sur le terrain du design, avec ses formes épurées, élégantes, fidèles au minimalisme japonais, qui sont souvent le produit d'ailleurs d'une véritable sculpture sur la glaise, en atelier, par de véritables artistes, avec aussi un caractère marqué qui peut donner, même à l'arrêt, une impression de dynamisme, ce qu'au Japon on appelle le kodo, autant dire l'âme du mouvement. Les Mazda, si vous les connaissez, vous donnent toujours cette impression de grâce féline, un petit peu comme si le véhicule était prêt à bondir. C'est ici qu'il faut aborder une notion tout à fait spécifique, ce que les Japonais appellent le Jinbaitai, qui fait référence à la symbiose qui existe, ou en tout cas qui pourrait exister, entre le cavalier et son cheval. C'est une expression guerrière qui est inspirée du tir à l'arc traditionnel des samouraïs, le yabusame qui désigne la faculté de faire corps avec la monture, et au-delà de la monture, de faire corps avec le mouvement même du projectile. Le projet est inscrit dans le réel. C'est toute une philosophie japonaise, ce Jinbaitai. C'est une sensation difficile à décrire, bien sûr, j'en suis conscient, mais dans une voiture, ça doit pouvoir s'apparenter tout simplement au plaisir de conduire qui a été développé au maximum chez Mazda et qui a été incarné en 89 par ce modèle iconique qui était le MX-5, qui d'ailleurs existe encore, dont le capital de sympathie est sans exemple. À l'heure où je vous parle, c'est toujours le roadster le plus vendu au monde. Assez inouï tout de même, surtout si on en revient aux origines de toute cette trajectoire, assez inouï de penser que cette excellence, cette volonté de dépassement, ce savoir-faire si singulier, tout ça aboutit à une notion de pur plaisir, de mouvement harmonieux, inouï et remarquable quand on parle, quand on pense et quand on revient à cette catastrophe fondatrice d'Hiroshima. Il existe une esthétique de ces voitures en lien direct avec toute cette philosophie et qui s'incarne, et j'en terminerai par là si vous voulez, qui s'incarne dans ce qu'on appelle là-bas le musubi, ce pliage de tissu, cette couture ultra élégante qu'on retrouve sur la planche de bord d'un des derniers crossovers lancés par Mazda, le CX-80. Il y a quelque chose de parfait dans tout ça, qui n'aurait pas pu voir le jour ailleurs, autrement, dans un contexte plus banal ou dans un contexte, en tout cas, moins extraordinaire.
Franck Ferrand sur Radio Classique.